Vous écoutez
RMC.
Vendredi 12 juin,
l'info sur RMC.
Il est 7h01. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. La confiance est rompue. Christophe Castaner n'a pas réussi à calmer la colère des policiers. Certains réclament sa démission. Nouvelles actions prévues aujourd'hui. Un tir accidentel, selon le rapport d'experts. La police innocentée dans la mort de Zineb Redouane, cette femme de 80 ans tuée par un tir de grenade lacrymogène. C'était en décembre 2018 à Marseille. Conseil scientifique, puis conseil de défense. Aujourd'hui, 48 heures avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, faut-il déconfiner plus rapidement? C'est ce que demandent les restaurateurs en région parisienne. Bienvenue à tous sur RMC. Les syndicalistes vont continuer à défiler dans le bureau de Christophe Castaner. Aujourd'hui, les syndicats des officiers et des commissaires de police. Hier, le ministre n'a pas convaincu. Les rencontres se sont soldées par des actions partout en France. Saint-Étienne, Marseille, Nice, Bordeaux ou encore Bobigny, où se sont rendus pour RMC Garance Munoz et Margot Bédé.
En ligne, devant la préfecture de police de Seine-Saint-Denis, une centaine de policiers, un par un, ils jettent au sol leurs menottes. Un geste symbolique avant les actes. Certains, comme Abdel, sont prêts.
On refusera pas les interventions pour des appels secours, des appels police secours, etc. Par contre, tout ce qui est intervention pour des stationnements, des interventions qui sont à la marge des urgences, effectivement, on pourra pas ne plus les faire, mais mettre le temps pour les faire.
Interdire la technique de l'étranglement était une erreur, c'est ce qu'a reconnu Christophe Castaner hier, d'après les syndicats. Mais Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité SGPFO, n'est pas dupe.
Là, on est sur des paroles, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tant qu'il ne revient pas là-dessus, tous les soirs, il y aura des rassemblements, il n'y aura plus d'interpellation. Et in fine, s'il faut monter en puissance et aller aboutir sur une grande manifestation nationale à Paris, ben on le fera. Parce qu'il paraît que sous l'émotion, maintenant, on peut manifester. Ben, les flics, aujourd'hui, ont beaucoup d'émotions. Et au-delà des gestes symboliques, on va vraiment taper dans le bois dur, faites-moi confiance là-dedans.
Plusieurs syndicats de police ont d'ailleurs prévu ce matin de mener une nouvelle action.
La police s'est disculpée dans le rapport d'expertise balistique dans la mort de Zineb Redouane. Le 2 décembre 2018, cette femme de 80 ans mourait à l'hôpital. La veille, lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Marseille, elle avait été touchée par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait les fenêtres de son appartement. Benoît Ballet, le rapport conclut à un accident.
Oui, c'est écrit noir sur blanc dans ce document de 73 pages. La grenade a été utilisée dans les règles. Le projectile a atteint la victime de manière totalement accidentelle. Le tir avait une trajectoire de base en haut et a été déclenché à 37 mètres de distance. Selon les experts, il ne peut donc pas s'agir d'un tir de visée, d'un tir intentionnel. Compte tenu de la distance, de l'obscurité et des dégagements de gaz lacrymogène dans la rue, rien ne permet d'affirmer que Zineb Redouane a pu être aperçu par le policier au moment où il pressait la gâchette. L'avocat de la famille de l'octogénaire juge, lui, ses conclusions scandaleuses. Selon lui, le tir était tendu et non pas en cloche et le policier ne pouvait pas ignorer qu'il pouvait y avoir des habitants dans l'immeuble. L'avocat espère que les magistrats chargés de cette enquête ne tiendront pas compte de cette expertise et qu'ils en demanderont une nouvelle.
Benoît Ballet, Gérald Darmanin rattrapé par la justice. La cour d'appel de Paris ordonne la reprise des investigations concernant une accusation de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance visant donc le ministre de l'Action et des Comptes Publics, des faits qu'il aurait commis en 2009 quand il était chargé de mission à l'UMP. RMC 7h05, déconfiner plus vite et pourquoi pas. Emmanuel Macron réunit ce matin le conseil scientifique, puis un conseil de défense. Objectif décidé d'assouplir plus vite les mesures sanitaires drastiques imposées notamment aux restaurateurs en zone orange. Seules les terrasses sont jusqu'ici exploitées. Ce n'est pas rentable du tout pour les établissements comme celui de Vincent Der, chef de cuisine au bistrot Augustin dans le 14e arrondissement de Paris.
On peut ouvrir avant le 22, là c'est une bouffée d'oxygène à tous les niveaux. Quoi. J'ai plein de collègues qui n'ont pas pu ouvrir, qui n'ont pas la chance d'avoir les terrasses. Et je pense souvent, vous savez, quand vous avez le personnel, quand vous avez la clientèle même, la clientèle n'a plus l'habitude de sortir, est-ce qu'elle va revenir? Déjà, ça nous a fait plaisir qu'on réouvre les terrasses. Mais voilà, alors il fait beau, ça va, il ne fait pas beau, on a peur. C'est pas évident parce que l'autre jour, on a pris des grelons, alors qu'est-ce qu'on fait? On vend, on ne vend pas? Non, c'est quand même, c'est assez bizarre. Hein.
Les écoles aussi vont-elles pouvoir alléger les mesures sanitaires? C'était en tout cas le souhait exprimé cette semaine par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Des mesures qui limitent le nombre d'enfants dans une même classe. Résultat, eh bien, les enfants ne sont parfois accueillis qu'un jour ou deux maximum par semaine. Jean-Michel Blanquer qui veut lutter contre les décrocheurs dans l'éducation nationale. Non pas les élèves cette fois, mais les enseignants. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux sont aux abonnés absents depuis le 11 mai. Pierrick Bonneau, désormais, toute absence non justifiée sera sanctionnée.
Le ministère ne donne pas de chiffres, mais le calcul est simple. 60% des professeurs sont retournés en classe et 35% travaillent toujours de chez eux pour assurer la continuité pédagogique des enfants qui n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Il reste donc 5% d'enseignants, plus de 40 000 qui n'ont pas repris le travail. Certains d'entre eux sont en arrêt maladie, certes, mais les autres ont disparu des radars, souvent à Paris et sa proche banlieue, selon une source au ministère. Dans l'entourage de Jean-Michel Blanquer, on précise qu'il s'agit d'une infime minorité, que dans toutes les entreprises, privées comme publiques, il y a des problèmes d'absentéisme, mais on insiste, fini la bienveillance qui prévalait jusque-là. Toute absence devra désormais être justifiée sous peine de sanctions. Les sanctions classiques prévues par l'Éducation nationale, avertissement, blâme, voire conseil de discipline en cas de récidive.
Quand PSA va chercher des salariés polonais pour les faire travailler de nuit dans son usine d'Ordin dans le Nord, près de Valenciennes, première victime de cette décision surprenante, 500 intérimaires qui se retrouvent sur le carreau. Le groupe se justifie en expliquant que le redémarrage ne se fait pas au même niveau sur tous les sites en Europe. Honteux, répondent les syndicats. Indignation du député communiste du Nord, Fabien Roussel.
Dans notre région et dans ce Valenciennois en particulier, le taux de chômage est déjà de plus de 15%. C'est purement honteux. Et c'est pour ça que je viens d'interpeller le ministre Le Maire pour lui demander que toutes les aides publiques versées à PSA ou à verser soient stoppées immédiatement.
Dans l'actualité également, ce chiffre, plus d'1,5 million de malades du Covid-19 recensés en Amérique latine, 40 000 morts au Brésil. Aux États-Unis, les experts craignent le décès de 200 000 personnes d'ici le mois de septembre. Des prédictions qui ont fait dévisser Wall Street hier. Le Dow Jones a clôturé en baisse de près de 7%. RMC, 7h07, 9 départements sont en vigilance orange. Aujourd'hui, Finistère et Côte d'Armor pour fortes pluies. Violents orages attendus dans l'Aveyron, Gard, Lozère, Cantal, Haute-Loire, puis Dôme et Ardèche. Hier, la ville d'Ajaccio a été surprise par la montée très rapide des eaux. Près de 200 personnes ont dû être évacuées, mises en sécurité. Certains automobilistes ont eu très peur, pris au piège dans leur voiture. Martin Bourdin.
Des rues transformées en torrents d'eau boueuse, des voitures à la dérive, des habitants sous le choc.
On a vu dévaler tous les conteneurs poubelles. Moi, je suis là depuis vraiment les années 80 et je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des inondations, mais comme ça, jamais.
Selon la préfecture, 80 personnes ont été prises au piège, bloquées dans leur voiture, secourues par les pompiers. Dominique, par exemple, s'est fait surprendre par la violence des averses.
Je me suis retrouvée bloquée dans un torrent de boue, hein. Donc ne plus pouvoir avancer, ne plus pouvoir reculer. Et l'eau qui remontait par le plancher de ma voiture. Donc là, j'ai paniqué, hein. Ça a duré. Je sais pas, peut-être 10 minutes, mais en me disant, c'est bon, là, je me noie, la voiture va partir, je me noie.
Finalement secourue, elle a ensuite vu sa voiture être emportée par les eaux ce matin. Seuls des dégâts matériels sont à signaler. Ça aurait pu être bien pire, reconnaît le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli.
L'équivalent de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de pluie qui se sont déversées sur la ville avec des dégâts, notamment dans les quartiers est de la ville où les eaux stagnent. C'était pas prévu, nous n'étions pas dans une vigilance.
Des opérations de nettoyage et de pompage se sont poursuivies toute la nuit. La ville doit demander dès ce matin la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Cette décision radicale d'une plateforme américaine de streaming, le film Autant en emporte le vent, retiré de son catalogue pour ses préjugés racistes. Même chose pour les cartes à jouer Magic. Plusieurs images ont été retirées du jeu, Benjamin Pelsi.
Sept cartes jugées offensantes sont retirées du catalogue de l'entreprise américaine qui édite les cartes Magic. Ce sont des cartes créées il y a près de 20 ans, comme celle-ci, décrite par Jérémy Sulzer, le directeur marketing d'un vendeur de cartes Magic à Paris.
Sur l'illustration, eh bien, on voit des figures cagoulées qui, avec très peu d'imagination, peuvent être vues comme des membres du Cuscus Clan. Ces cartes-là, elles étaient un peu passées à la trappe.
Les joueurs ne pourront donc plus utiliser ces cartes lors de tournois et la revente de celles-ci est terminée pour Jérémy.
Alors, ces cartes, ça fait plus de 20 ans qu'elles ne sont plus imprimées, fabriquées. C'est des cartes qui viennent de très anciennes éditions. Donc cette décision, elle est symbolique avant tout.
Alors faut-il supprimer tout ce qui peut être interprété comme raciste dans les jeux, les films ou les livres? Non, répond Thiaba Bruni, la porte-parole du Conseil représentatif des associations noires de France, mais des précautions sont à prendre.
Il y a un travail d'inventaire à faire pour que certains livres ne soient pas mis entre les mains de n'importe qui. Par exemple d'un adolescent ou d'un enfant qui est très influençable et qui peut prendre cela comme argent comptant.
Thiaba Bruni plaide néanmoins pour que les ouvrages destinés aux plus jeunes soient expurgés des passages véhiculant des préjugés racistes.
Résultat de football, ça faisait longtemps. Tiens, le premier match de la reprise de la Liga, le FC Séville s'est imposé à domicile contre le Bétis dans un derby 2-0 joué dans un stade complètement vide, hein, Jean-Jacques.
Oui, oui, moi j'aime pas ce football dans des stades vides. J'espère qu'on va retrouver très vite des spectateurs. Je le pense. Je le pense, pour le début de la prochaine saison, 22-23 août. Hein. Notez bien ces dates. Il est 7h11. Merci Céline, 7h11. Vous êtes sur RMC. Nous sommes en ligne parce que chacun a droit à la parole. Nous avons reçu ici Assa Traoré. Nous avons parlé de l'affaire Traoré. Mais ce matin, je voudrais aussi donner la parole à Maître Pascal Rouillet, qui est l'avocat de l'un des trois gendarmes mis en cause dans la mort d'Adama Traoré. Maître Pascal Rouillet, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous, Maître Rouillet. Il y a un peu d'écho. Hein, si, voilà, vous êtes là avec nous par Skype. Bien, Maître Rouillet, les avocats dénoncent, les avocats des gendarmes, donc vous dénoncez des contre-vérités. Vous voulez rétablir les faits dans cette affaire. Que voulez-vous rétablir, Maître ?
Avec mes confrères Bosselu et Chirac-Colaric, nous avons estimé, après 4 ans d'enquête, qu'il y avait lieu de sortir de la réserve qui était la nôtre depuis le départ, celle des gendarmes et de l'institution gendarmerie, parce que des contre-vérités circulent à sens unique depuis le départ, avec pour source la famille Traoré. Le parquet de Paris récemment est intervenu tellement les fausses informations étaient majeures et nous avons décidé, malgré le secret de l'instruction, compte tenu de la situation, de prendre la parole modestement, humblement, mais pour rappeler un certain nombre de certitudes acquises au terme de l'enquête et qui permettent aujourd'hui d'écarter toute responsabilité pénale des gendarmes dans le décès d'Adama Traoré.
Alors j'ai des questions à vous poser. Est-ce que les gendarmes ont pratiqué un plaquage ventral sur Adama Traoré ? Oui ou non ?
Alors la réponse est non, elle est parfaitement claire. Elle résulte des déclarations des trois gendarmes interpellateurs. Après une course, Adama Traoré ayant fui une première interpellation, ayant réussi à échapper à des premiers gendarmes qui l'avaient menotté, se réfugie dans un appartement. Le locataire de l'appartement sort effrayé par cette intrusion violente et Adama Traoré se couche au sol, enlève sa chemise et se cache sous une couverture. Les gendarmes interviennent à ce moment-là, ils interviennent à trois. Adama Traoré a les bras sous le corps, on ignore s'il a éventuellement une arme. En tous les cas, il refuse l'interpellation. Les trois gendarmes vont intervenir en même temps, l'un pour saisir le bras droit, l'autre pour saisir le bras gauche, le troisième pour saisir les jambes, vont le menotter, le mettre en station debout et le raccompagner jusqu'au véhicule de gendarmerie. Ça dure quelques secondes. En aucun cas, il n'y a eu de plaquage ventral, de plaquage violent. Les seules manœuvres ont été une opération dorsale costale pour maintenir l'intéressé qui refusait son menottage et pour permettre ce menottage précisément.
Dans quelles circonstances est décédé Adama Traoré ensuite, maître ?
Adama Traoré va donc arriver à la gendarmerie dans le véhicule de gendarmerie. Il est détecté pendant le transport de quelques minutes une défaillance de ce garçon qui semble partiellement amorphe. Il va donc être placé dans la cour de la gendarmerie en position latérale de sécurité. Les gendarmes vont immédiatement appeler les secours. Les secours vont se rendre sur place, tenter de le ranimer. Massage cardiaque, compte tenu de son jeune âge, l'espoir était important qu'il soit ranimé. Et malheureusement, il va décéder.
Oui, il a fait un malaise. Un pompier affirme qu'à son arrivée, Traoré était allongé sur le sol, dans la cour de la caserne, face contre terre, et les mains menottées dans le dos. C'est vrai ou faux ?
Oui, et un autre pompier dit qu'il était, comme les gendarmes le disent, en position latérale de sécurité. On n'est pas tout à fait d'accord du côté des pompiers sur ce qui a été constaté lors de l'arrivée à la gendarmerie.
Oui, 4 ans après les faits, il n'y a jamais eu de reconstitution. Comment se fait-il ?
Alors, une reconstitution qui consiste, à défaut de tiers, témoins, d'images vidéo, à reconstituer ce que disent trois gendarmes, ça présente assez peu d'intérêt. Il suffit de lire leur déclaration pour savoir ce qui s'est passé. Une reconstitution, c'est intéressant quand on a des versions divergentes et qu'on souhaite se remettre en situation pour reconstituer les faits. On a ces témoignages qui sont précis, on a des expertises médicales, plus de 10 médecins experts se sont penchés sur la situation d'Adama Traoré. L'ensemble des expertises judiciaires, contre-expertises judiciaires, sur-expertises judiciaires, ordonnées par les magistrats instructeurs et confiées à des experts compétents et indépendants, concluent à une absence de toute lésion, de toute trace de violence, de toute trace de pression au moment de l'interpellation, les derniers experts indiquant même qu'en réalité, le pronostic vital était engagé avant même qu'il entre dans l'appartement. Cette plurifactorielle, les circonstances et conditions du décès, une pathologie antérieure, la prise de produits stupéfiants, un effort intense, un stress aigu ce jour-là, une très forte chaleur qui font que malheureusement, à ce moment-là, compte tenu de pathologie cardiaque par ailleurs, ce garçon est décédé dans les minutes qui ont suivi le moment de son interpellation.
Maître Rouillé, la famille d'Adama Traoré réclame l'identification et l'audition d'un témoin ayant aidé le jeune homme de 24 ans à échapper à la première interpellation des gendarmes. Vous aussi, vous demandez l'identification et l'audition de ce témoin ?
Vous savez, M. Bourdin, ça fait 4 ans qu'on travaille dans ce dossier, que tout a été épluché, tous les témoins entendus, les éventuelles vidéos à proximité exploitées, les expertises ordonnées, ça fait 4 ans qu'on travaille. La certitude aujourd'hui judiciaire, c'est que ces gendarmes n'ont strictement rien à se reprocher, ils ont été exemplaires, ils ont appliqué les techniques en vigueur et que leur intervention n'a rien à voir avec le décès d'Adama Traoré. Donc ça fait maintenant 4 ans que tous les 15 jours, tous les 3 mois, on nous invente du côté de la partie civile une nouvelle investigation qu'il est important de mener pour essayer de contester, de nuancer les certitudes médicales et scientifiques dans ce dossier. Donc moi je veux bien qu'on fasse une 12e, une 15e, une 27e expertise, je veux bien qu'on fasse une reconstitution, je veux bien qu'on vérifie ce qu'il avait mangé la veille ou l'avant-veille, je veux bien qu'on vérifie ce que témoin qui n'est pas là au moment de l'interpellation peut nous dire. Il y a un moment, il va falloir arrêter d'enquêter et juste ouvrir les yeux sur la réalité des choses.
Maître Rouillé, est-ce que Adama Traoré avait une côte cassée lorsqu'il est décédé ?
Alors c'est intéressant parce que ça fait débat. Je vous disais tout à l'heure que l'ensemble des expertises judiciaires qui sont au dossier et qui sont les seules expertises indépendantes confiées à des experts patentés ont tous conclu, ces expertises, qu'il n'y avait en aucun cas des traces de lésions, de violences policières ou de pression anormale des gendarmes, des corps des gendarmes sur celui d'Adama Traoré. On a eu un avis privé obtenu dans des conditions qu'on ignore d'ailleurs par la famille Traoré, qui nous disait, mais regardez, il y a une côte cassée, c'est bien la preuve d'une pression anormale et d'une violence policière. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet avis de ces médecins qui ont accepté d'écrire à ce moment-là, on se trompe dans l'identification de la côte cassée, puisque ça n'est pas une côte dorsale, mais une côte antérieure, et cette côte cassée, ça résulte des examens médicaux, est liée tout simplement au massage cardiaque qui a été pratiqué par les pompiers sur Adama Traoré, et en aucun cas sur une pression qui aurait eu lieu dans le dos de l'intéressé par les gendarmes. Cet avis médical, qui n'est pas une expertise, se fonde sur une constatation qui est non conforme à la vérité. Ça n'aide pas à comprendre, ça c'est sûr, la réalité des choses et ça n'aide pas à ouvrir les yeux.
Bien, j'ai une dernière question, Maître Rouillé. J'imagine que vous voudriez maintenant que la justice aille plus vite et que quelles sont les prochaines étapes maintenant ? Où est-ce que vous en êtes ?
Les prochaines étapes, ce sont deux auditions de témoins qui sont programmées, là encore parce que la partie civile estime que ce que les témoins ont dit et qui est conforme à ce qu'expliquent les gendarmes, ils font à nouveau entendre ces témoins. Sait-on jamais, des fois qu'ils diraient quelque chose de différent de ce que l'on a dans le dossier, sait-on jamais, il faut qu'on en termine, il faut que les juges d'instruction, qui avaient envisagé d'ailleurs, après les dernières expertises, une clôture de l'information judiciaire, clôture par un non-lieu, et qu'enfin on puisse avoir une certitude judiciaire. Ces gendarmes n'ont pas été mis en examen, ils ont le statut de témoin assisté, ils seront innocentés à terme, il est largement temps que ça se termine.
Bien, merci beaucoup Maître Rouillé, chacun, encore une fois, a droit à la parole sur RMC. C'est comme ça que ça se passe, malgré toutes les protestations, malgré toutes les remarques, malgré tous les commentaires, malgré toutes les pressions sur les réseaux sociaux, ici, sur RMC, tant que je suis là, c'est comme ça que ça se passera. Il est 7h20, vous êtes sur RMC.
À suivre, on a mieux mangé pendant le confinement et certains se sont même laissés convaincre par le bio, le boom du bio dans Du Pain Quotidien, dans une minute sur RMC.
RMC. RMC.
Du Pain Quotidien.
Marie Dupin est avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour.
Ça va Marie ?
Oui.
Les consommateurs de bio en France sont de plus en plus nombreux et pas que des bobos parisiens.
Non.
Le bio fait un carton aussi dans les campagnes,
partout.
Fait un carton dans les petites villes. Moi, je le vois hein, sur le marché du Vigan, le bio. Et non. Et pourtant, il y a pas. Non, mais il y a du bio et il y a aussi des produits d'agriculture très raisonnables.
Exactement. En tout cas, pendant le confinement, ça a cartonné hein, le bio. Alors peut-être parce qu'on a plus mangé à la maison, peut-être aussi parce qu'on s'est plus inquiété pour sa santé. Et c'est vrai que les Français pensent que le bio est meilleur pour la santé. En tout cas, 70% des consommateurs ont acheté du bio en tout cas des produits bio pendant le confinement. 70%, c'est 8% de plus que d'habitude. C'est vraiment énorme. Mais qui sont-ils, ces nouveaux consommateurs de bio? Eh bien, selon l'étude de l'agence Bio, il y a une progression dans toutes les catégories socio-professionnelles, mais davantage encore chez les plus modestes.
Oui, ceux qui ont les moyens aussi, quand même, de s'offrir.
Ceux qui ont les moyens, mais qui en consommaient déjà.
Oui.
Et en fait, chez les plus modestes, ça commence aussi à être une tendance de plus en plus forte.
Pour l'instant, au Secours Populaire ou au Resto du Cœur, il n'y a pas de bio. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, pendant le confinement, les acheteurs se sont aussi beaucoup tournés vers la vente directe. Alors là, auprès des producteurs, ça aussi, ça cartonne.
C'est vrai que la plupart du temps, les achats bio se font encore en hypermarché. Hein. Mais 22% des consommateurs de bio ont acheté directement leurs produits à la ferme ou via des AMAP, en tout cas directement aux producteurs. Oui. 22%, c'est vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, si les gens achètent bio, c'est parce que c'est meilleur pour la santé, mais c'est aussi pour soutenir l'économie locale, pour soutenir les circuits courts. Et c'est une tendance qui est particulièrement forte dans les zones rurales.
Oui, et puis dans les zones rurales, on achète aussi chez des agriculteurs qui ne sont pas bio,
exactement,
mais qui produisent
la vente directe.
La vente directe,
absolument partout. Ah, et d'ailleurs, les gens ont pris de l'habitude de la vente directe pendant le confinement et veulent garder cette habitude.
La vente directe, c'est votre truc, vous, Charles Magnin?
Directement au supermarché.
Lui, il va direct au supermarché, c'est ça, sa vente directe. C'est son achat direct.
Exactement.
Bon, le jeu, on va jouer. Vous voulez jouer?
Ah bah oui,
allez,
plaisir.
Parce que j'offre 500 euros tous les mois pendant un an, c'est 6000 euros. De course, hein.
Bio ou pas,
comme on veut.
Avec les 6000 euros, faites ce que vous voulez. Ouais. Bon, vous répondez à la question que je vous pose. Les prénoms des membres de mon équipe sont... Ça, c'est réponse 1. Mathieu, Anaïs, Marie, Charles, Quentin, Géraldine, Nicolas. Ou alors, réponse 2, Mario, Alison, Megan, Sean, Quincy et Germaine.
Qui
fait les questions? Nous verrons à 8h20. Vous avez la bonne réponse. Alors, 1 pour Mathieu, Anaïs, Marie et compagnie. Et 2 pour Mario, Alison, Megan. Le gagnant, la gagnante avec moi tout à l'heure à 8h20. Ce sera le tirage au sort définitif puisque c'est le dernier jour où l'on peut jouer. L'actu des réseaux sociaux avec Charles Magnin. La colère des policiers soutenu par de nombreux internautes, Charles.
Oui, deux hashtags, je soutiens la police et je soutiens les FDO pour force de l'ordre. Deux hashtags à travers lesquels les internautes affichent leur soutien depuis plusieurs jours déjà. D'abord, en rappelant que ce sont les mêmes policiers que l'on célébrait en héros en 2015. Et puis, beaucoup d'internautes veulent à tout prix qu'on refuse les amalgames. Je soutiens la police, écrit un internaute. Et ça ne veut pas dire que je cautionne le racisme ou la violence. Il faut écarter les brebis galeuses, mais rester juste et reconnaissant pour ceux qui nous protège, dit cet internaute. Et puis, parmi les milliers de messages de soutien aux policiers, il faut le dire, beaucoup de critiques du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Enfin, de nombreux internautes comprennent parfaitement la colère des policiers exprimée hier soir devant les commissariats. Ils ont raison, le procès collectif qu'on leur fait est aussi injustifié qu'abject, écrit cet internaute. Même si, pour d'autres internautes, ces policiers en colère sont ridicules, ils se fâchent alors qu'on leur demande juste de faire correctement leur travail, sans violence injustifiée ni parole raciste.
Oui, une info qui a fait sourire les internautes hier soir, la nouvelle mission confiée à Benjamin Griveaux.
Oui, éloigné des radars médiatiques depuis la fin rocambolesque de sa campagne municipale à Paris, le journal L'Opinion nous apprend qu'en tant que député, Benjamin Griveaux va se voir confier une mission au sujet de la base industrielle et technologique de défense qu'on appelle la BITD. Évidemment, l'acronyme BITD a fait sourire les internautes. À une lettre près, on y est. D'ailleurs, L'Opinion a choisi pour titre de son article « Benjamin Griveaux va s'occuper de la BITD française. Il va forcément prendre les choses en main », dit un internaute, pour une fois qu'il s'occupe de celle de quelqu'un d'autre, ajoute un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il est parfaitement placé pour relever l'institution et lui donner de l'ampleur, estime un internaute, car il caressait ce projet depuis longtemps. Festival de blagues un peu lourdes sur Twitter hier soir. Et la commission de la défense de l'Assemblée est d'ailleurs bien consciente du ridicule de la situation. Elle va donc renommer la BITD, qui va désormais s'appeler la base industrielle de souveraineté de la défense, BIS. C'est moins rigolo.
Bien, il est 7h29. Nicolas Poincaré, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Nicolas, nous allons partir pour l'île de Sein.
Je vais vous raconter ce qui s'est passé sur cette île en juin 40. Tous les pêcheurs, plus pas mal de lycéens, ont pris des petits bateaux pour rejoindre Londres et le général de Gaulle qui avait lancé son appel. Alors pourquoi on en parle? Parce que Marine Le Pen vient d'annoncer qu'elle serait sur l'île de Sein le 18 juin prochain.
Et ça provoque une émotion.
Et oui, parce qu'entre les Le Pen et de Gaulle, c'est une longue histoire de détestation. Les Le Pen, père et fille, ont toujours détesté de Gaulle jusqu'à aujourd'hui.
Ne ratez pas ce moment tout à l'heure à 8h10. Il est quelle heure? Il est 7h.
On l'entendait avec Charles Magnin, les policiers sont en colère et ils promettent une action coup de poing ce matin sur les Champs-Élysées. Yvan Assioma du syndicat Alliance est avec nous juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Il est 7h31, Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le déconfinement au menu d'un conseil de défense à l'Élysée ce matin. Sur la table, notamment le cas des restaurateurs en Île-de-France. Ils espèrent pouvoir rouvrir leurs salles avant le 22 juin. Étudiants recherchent job d'été désespérément. Illustration de la crise économique. Les offres sont divisées par deux cette année dans certaines régions. Et puis Christophe Castaner est-il toujours le premier flic de France dans la tête des policiers plus vraiment. La colère s'installe. Rassemblement hier à Lille, Marseille, Toulouse ou Nice. RMC 7h32. Emmanuel Macron réunit à 10h le conseil scientifique, puis à 11h un conseil de défense à l'Élysée. Objectif, faire le point sur la crise sanitaire et le déconfinement. Le chef de l'État va-t-il desserrer l'étau ? C'est ce que veulent les restaurateurs d'Île-de-France. Plus question de se contenter des terrasses. Ils demandent à pouvoir rouvrir leur salle avant le 22 juin. Thomas Chupin.
Sous un ciel menaçant hier soir, Laurent Fréchet, restaurateur parisien, se désespérait de voir sa terrasse se vider.
C'est un exemple parfait, je dirais. Il y a du vent, on a les premières gouttes, ce soir on ne trahira pas.
Il est donc urgent de desserrer les taux, d'ouvrir l'intérieur des restaurants, parce que jusqu'ici, même en terrasse, les clients ne sont pas au rendez-vous.
Oui, ça sera un signe très fort. Pour l'instant, je crois qu'une partie de la population considère que les restaurants franciliens sont enfermés puisqu'ils n'ont que leur terrasse.
Et Laurent a malgré tout bien conscience que ce serait une ouverture à minima à cause des distanciations social, mais ce n'est pas grave.
Aujourd'hui, on ouvre avec 10% de capacité, c'est absolument pas rentable. Demain, en nous laissant ouvrir l'intérieur de nos établissements, on sera à une 50% de capacité. C'est toujours pas rentable, mais les pertes sont bien évidemment moins fortes.
Accélérer le déconfinement permettrait de sauver de nombreuses entreprises. C'est aussi l'analyse de Thibault Langsade, vice-président du MEDEF.
Quelques jours de plus qui pourraient être mis en œuvre, ce sont des fonds propres qui vont être renforcés, du chiffre d'affaires qui va revenir. On peut parler de plusieurs milliers d'entreprises qui pourraient être sauvegardées.
Et pour les restaurants parisiens, juillet et août correspondent à la basse saison. Surtout sans touristes étrangers, 15 jours pleins en juin permettraient donc de limiter un peu les dégâts.
Juillet et août, c'est aussi la période des jobs d'été pour les étudiants qui veulent se faire un peu d'argent avant la rentrée. Sauf qu'évidemment, cette année, avec la crise, c'est une vraie galère. Fanny Cousin.
Elle pensait trouver un job d'été facilement, mais cela s'annonce plus compliqué que prévu pour Nina. Cette étudiante a entamé ses recherches depuis le mois de mars et elles n'ont toujours pas abouti.
J'ai eu pas mal de pistes, mais un nombre conséquent de d'échecs.
Vous avez relancé les démarches que vous avez déjà effectuées.
Fanny Martel est responsable du bureau information jeunesse de Villeurbanne. Elle constate une diminution d'offres d'environ 50% par rapport à l'an dernier.
Elle est liée à cette période de crise du coronavirus qui a à la fois impacté l'activité des recruteurs potentiels et puis les possibilités des jeunes pour déposer leur candidature.
Vita Colo, bonjour.
Dans les locaux de cette association qui gère des colonies de vacances, seuls 2 centres sur 3 ouvriront cet été. Charlotte Chassagneret, la co-directrice, a été contrainte de réduire ses effectifs.
Dès janvier, nous, on a recruté nos équipes, nos directeurs et directrices, qu'on a formés pendant tout un week-end au mois de mars. Et malheureusement, compte tenu de la situation, on a dû se séparer de pas mal de monde.
2000 offres d'emploi sont tout de même disponibles dans la région et ce chiffre pourrait progresser avec le début de la saison estivale.
Et hier, on apprenait que 500 000 emplois avaient été supprimés en France au premier trimestre, avec un effondrement de 40% dans l'intérim. Horizon économique sombre, un peu plus lumineux, heureusement, sur le plan sanitaire. Le nombre de cas graves en réanimation continue de baisser. D'ailleurs, la Commission européenne recommande de rouvrir rapidement les frontières intérieures, de lever toutes les restrictions de voyage dans l'Union européenne dès lundi. Pour les déplacements en dehors de l'espace Schengen, c'est la date du 1er juillet qui est proposée par Bruxelles, Benoît Ballet.
Nous appelons tous les États membres à lever toutes les restrictions aux frontières intérieures le 15 juin, ce lundi donc, déclaration hier de la commissaire aux affaires intérieures de l'Union européenne, car tous les pays de l'Union n'ont à ce jour pas le même calendrier. Le Danemark, par exemple, envisage de ne rouvrir ses frontières le 15 juin qu'aux Allemands, Norvégiens et Islandais. L'Espagne et le Portugal évoquent, eux, une réouverture des frontières le 1er juillet. Quant aux frontières extérieures, à l'Union européenne. Bruxelles souhaite une levée des restrictions au 1er juillet. La liste des pays tiers qui en bénéficieront sera établie en accord avec chaque pays membre et selon trois critères: la situation épidémiologique dans le pays en question, la capacité à faire appliquer les mesures sanitaires pendant le voyage et le respect du principe de réciprocité. Pas question donc de rouvrir totalement les frontières de l'Union européenne à un pays qui n'entend pas faire de même comme les États-Unis.
Benoît Ballet, merci. Nouvelle action forte et symbolique prévue ce matin à Paris. Les policiers toujours très remontés contre Christophe Castaner depuis les propos et les annonces de lundi. Malgré les réunions au ministère de l'Intérieur avec les syndicats, la confiance est rompue. Des rassemblements ont eu lieu hier dans toute la France. Benjamin Smadja.
Hier soir à Nice, alignés devant leurs véhicules aux gyrophares allumés, des policières et policiers en uniforme jettent symboliquement leurs outils de travail au sol. Menottes, matraques, boucliers, casques et gilets pare-balles sont à leurs pieds. Un peu plus tôt hier, des rassemblements se sont aussi tenus dans plusieurs villes comme à Saint-Étienne, Marseille, Nice, Bordeaux, Bobigny, Toulouse ou encore Lille.
On est ici présent, menottes au sol, parce qu'on s'est fait insulter. Parce qu'on se fait insulter par notre ministre de l'Intérieur. Parce que la police aujourd'hui, elle est suspecte de tout.
Des manifestations rares qui font suite aux déclarations et aux décisions du ministre de l'Intérieur. Suspension d'un agent en cas de suspicion avérée de racisme, interdiction de recourir à la clé d'étranglement. Michel Lavaux est le porte-parole de la police nationale.
Je vois dans ces images la marque et les témoignages d'amertume. De tristesse, de lassitude. Nous, policiers, nous avons le sentiment d'être victimes d'amalgame. Or, la police nationale n'est pas raciste et la police nationale n'est pas violente.
La mobilisation se poursuit aujourd'hui. Le syndicat Alliance promet une action forte et symbolique.
C'est ce que redoutaient les avocats et la famille de la victime. Le rapport d'expertise balistique disculpe la police dans la mort de Zineb Redouane, algérienne de 80 ans. Touchée au visage par un tir de grenade, elle se trouvait à la fenêtre de son appartement. C'était en 2018, lors d'une manifestation de gilets jaunes. Et puis, la reprise des investigations sur les accusations de viol contre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics avait bénéficié d'un non-lieu en 2018, mais la justice estime que les premières enquêtes n'ont pas été assez loin. Les courses, Mathieu, c'est à Rouen-Mocanchy.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 11, Dollar Soyer, outsider numéro 12, Carioca de Loup, le 11 et le 12.
La police. Parlons de la police, encore une fois, ce matin avec Yvan Assioma. Bonjour.
Bonjour, Jean-Jacques Gourdin.
Vous êtes secrétaire national Île-de-France du syndicat Alliance Police Nationale. Action forte aujourd'hui du syndicat Alliance. Qu'allez-vous faire ?
Bah écoutez, je vais pas vous la dévoiler.
Ah bon ? Bah d'accord.
Mais non,
bon.
On veut garder un effet de surprise.
Vous êtes comme les manifestants finalement ou de toutes sortes quoi.
Je vais quand même vous donner une info.
Allez, une info
exclusive. Ouais. C'est qu'on va pas brûler de voiture. On va rien casser du tout. Et on fera ça dans le respect des règles sanitaires.
À Paris. Donc ce serait une manifestation de masse.
Une action...
Symbolique.
Symbolique, exactement.
À Paris, une action symbolique.
Une action symbolique à Paris, forte, qui n'avait jamais été faite par Alliance Police Nationale.
Jamais.
Pas encore.
Qu'est-ce que vous cherchez ?
Eh bien écoutez, on veut faire entendre au ministre, non pas la colère de nos collègues, parce que bien sûr ils sont en colère, mais ça va au-delà de ça. Nos collègues sont pas révoltés, mais ils sont ulcérés. Ils se sentent trahis, ils se sentent abandonnés après avoir tout donné. Surtout, comme je représente les policiers d'Île-de-France, Paris et la petite couronne ont été particulièrement touchés depuis de nombreuses années, depuis les attentats de 2015. S'en essuie où on a laissé nos collègues ont donné leur vie, ont perdu leur vie au cours de certains attentats, ont été visés par des attentats. Ensuite, on a connu les manifestations sur les lois de travail qui ont été très dures déjà à cette époque. Il y a des jours où nous avons une quarantaine de blessés par jour. Ensuite, les manifestations gilets jaunes, où là, ça a été terrible pour nos collègues. On se souvient tous des images de l'Arc de Triomphe qui avait été attaqué, un collègue qui a failli se faire lyncher. Une des premières manifestations gilets jaunes, on a un collègue qui a été gravement blessé à l'œil, un qui a eu le bras cassé. pour ne citer qu'eux, malgré les équipements de protection, c'est les manifestations qui étaient ultra-violentes. Pendant plus d'une année, nos collègues parisiens ont subi ces manifestations. Ils ont toujours répondu présents. Ils ont sacrifié quasiment tout leur samedi pendant un an parce qu'ils ont été nombreux à être appelés. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est remercié par notre gouvernement, parce que ça dépasse bien sûr le cadre de notre ministre. On voit bien que notre ministre, il a des consignes. Et quand il fait
vous
des
voulez
annonces...
son départ ? Est-ce que vous demandez ce matin le départ de Christophe Castaner ?
Mais non, on ne demande pas le départ de Christophe Castaner parce que ce n'est pas l'ADN d'Alliance Police Nationale. On n'est pas des révolutionnaires. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre ministre prenne ses responsabilités.
Mais que voulez-vous alors ?
Et défendre ses policiers.
Mais que aujourd'hui,
vous
allez
attendre le dernier moment pour dire je soutiens ma police.
Oui.
D'abord, il faut un soutien au quotidien parce qu'encore une fois, avec les faits que je viens d'énumérer, les faits ont été forts contre les policiers durant ces dernières années. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, et surtout, ça s'est accentué avec les manifs gilets jaunes, que le policier est désigné. Au début, les manifestation gilets jaunes avait peut-être du sens. Qu'est-ce qu'on entendait à la fin ? Issu des Black Blocs, qu'est-ce qu'on entendait ? Suicidez-vous, tout le monde déteste la police. Mais c'est faux. C'est faux et c'est humiliant pour nos collègues. Nos collègues aujourd'hui sont ulcérés de voir qu'on n'est pas plus défendu que ça. Aujourd'hui, ce n'est plus des revendications, ce sont des exigences. Qu'est-ce qu'on exige ?
Alors attendez, on va y revenir, Yvan Assuma. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Nous allons parler aussi de la confiance de la population envers la police qui est grande. Nous allons revenir sur ce que vous allez faire et nous allons revenir plus largement sur le contexte. A tout de suite, vous êtes sur RMC. RMC Découverte, vous ne ratez rien. Je fais un peu de pub parce qu'il y en a beaucoup et on se retrouve dans 2-3 minutes, 7h42.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct. Il est 7h46. Merci d'être avec nous, Yvan Assioma, secrétaire national d'Île-de-France du syndicat Alliance Police Nationale, qui ne veut pas nous dire quelle sera l'action aujourd'hui. Toujours pas, non ?
Non, c'est vrai, il faut que ce soit.
Vous avez peur de la police ou...
Absolument non, pas. Bon. La police est avec nous. Les gendarmes sont avec nous.
Donc là, ils sont prévenus.
Oui,
il n'y aura pas d'intervention policière ou de gendarme.
Écoutez, on verra bien. Après, on ne peut pas empêcher les collègues d'obéir aux instructions qui leur sont données. Mais bon, nous sommes plutôt optimistes.
Bon, alors, vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous demandez ce matin ?
Encore une fois, ce n'est plus des revendications, ce sont des exigences.
Alors, quelle exigence ?
Que le ministre entende et revienne sur les déclarations qu'il a faites, tout simplement.
Laquelle ?
Les deux qu'il a fait. La première, celle de l'interdiction de cette fameuse, ce qu'on peut appeler la clé de cou, le tête-nuque. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune autre technique qui est mise à disposition des policiers pour interpeller quelqu'un qui se rebelle ou qui s'en prend violemment à un policier.
Bon, vous voulez la technique d'étranglement, comme on dit, ou je ne sais pas.
Oui,
enfin, bon.
C'est vulgairement, enfin, bon, mais ce n'est pas un étranglement, c'est simplement une technique qui permet de maintenir le cou d'une personne afin de l'amener rapidement au sol pour qu'il soit menotté le plus rapidement possible et remis sur ses pieds. Voilà à quoi sert cette technique.
Mais la famille Chouviat dit ça a tué Cédric Chouviat.
Mais écoute, encore une fois, ce sont les déclarations de la famille. On peut entendre la tristesse des gens, bien entendu.
Oui.
Personne, aucun policier aujourd'hui ne souhaite que la personne qui l'interpelle meure. Maintenant, il faut laisser, comme dans d'autres affaires, il faut laisser l'enquête se mener, déterminer. Et,
la police, l'enquête.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire.
Bon, mais
elle est en cours.
Bon, alors, vous demandez ça. Que demandez-vous encore ?
On demande aussi que le ministre revienne, bien entendu, sur ce soupçon avéré qui a un non-sens juridique.
Il vous a dit hier qu'il regrettait ses paroles.
Mais écoutez, c'est bien de nous le dire. Quand il les a dit, quand il a fait ses annonces, et on le sait tous, ça a été des annonces plutôt politiques, sans faire, nous, alliance de politique nationale. Mais on voit bien que le ministre, il est aux ordres du président Macron, et que c'est sans doute le président Macron qui lui a demandé de dire des choses. Mais on voit bien qu'il n'y a pas eu de travail de fond. Parce que s'il y avait eu un travail de fond, on n'aurait pas annoncé du jour au lendemain l'interdiction cette clé. On aurait mis un autre système en place. C'est pourquoi on demande que temporairement, tant qu'on ne nous propose pas un autre procédé, on souhaite que ça se soit maintenu. On souhaite aussi la généralisation des pistolets à impulsion électrique. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon aussi de pouvoir maintenir une personne violente sans avoir de contact direct. Voilà pourquoi on demande ça. Et on demande aussi, et c'est étonnant parce que J'écoutais hier encore Maître Dupond-Moretti qui rappelait lui-même que le policier, comme tout citoyen, a droit à la présomption d'innocence. Eh bien, les déclarations du ministre allaient à l'encontre de cette présomption d'innocence. Aujourd'hui, il y revient. Peut-être. Pourquoi ? Parce que justement, il a sans doute peur de ce qu'on va faire tout à l'heure. Parce que ça va marquer tout le monde. Ça va être. Vous allez pouvoir le suivre, vous aussi, j'imagine.
À quelle heure ? C'est à quelle
direct.
Heure ? À quelle heure
ce matin?
C'est à quelle heure, Yvan Azioma?
D'ici
peu. Parce que vous êtes encore là, il est 17h49, là.
D'ici peu, tout ça, ça demande des organisations, on se prépare, on va mettre, on va démarrer ça.
L'Élysée.
Ce sera ce matin.
L'Élysée.
Ça va arriver vite, vous n'aurez pas à patienter très longtemps.
Oui.
Ce que je reviens, c'est pourquoi on maintient ça. D'abord, pour faire comprendre aux ministres que nos collègues se sentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sentent profondément lâchés. C'est ça surtout. Ils se sentent lâchés. On a été lâchés à une vindicte populaire qui n'existe pas.
Mais quand même, ce qui s'est passé à Rouen, vous condamnez les propos racistes qui ont été tenus.
Mais on ne peut pas les cautionner, bien évidemment.
Bon. Mais ces policiers sont toujours en fonction.
Mais écoutez, ça c'est un problème de responsabilité de notre administration.
Oui. Est-ce qu'ils devraient être suspendus?
Mais si les faits, encore une fois, si les faits sont avérés, comme on a pu l'entendre, j'ai écouté les bandes.
Ils sont avérés ou pas?
Mais écoutez, c'est à l'enquête de le déterminer. Pour moi, ce qu'on peut entendre sur les bandes, bien sûr que ce n'est pas acceptable pour un policier. Un policier, il est républicain. On travaille tous les jours avec des policiers. Moi-même, ça fait des années que je travaille avec des policiers qui s'appellent Ouria, qui s'appellent Noura, qui s'appellent Zouir, qui s'appellent Abdel. Comment aujourd'hui on peut dire que la police nationale est raciste? Je travaille avec eux tous les jours. La police nationale est aujourd'hui composée de collègues venant de divers horizons. Tout le monde le sait. On ne peut pas jeter en pâture la police nationale avec des faits condamnables qui sont pratiqués par quelques-uns de nos collègues qui n'ont, à qui il faut
expliquer. Il paraît qu'il y a un syndiqué Alliance au milieu de tout ça, c'est vrai ou pas?
Écoutez, on est un syndicat aujourd'hui,
c'est
on est un syndicat majoritaire des policiers. Je suis responsable national Île-de-France.
Île-de-France, vous ne savez pas.
Voilà. Non, je ne joue pas la question. Je rentre pas dans les détails, je les connais pas. Statistiquement, il n'est pas improbable qu'effectivement quelqu'un soit adhérent chez nous. Adhérent chez Alliance, ça ne veut pas dire avoir un poste à responsabilité chez Alliance Police Nationale. Nous avons de très nombreux adhérents.
Bien. Faites-vous confiance à la police? Que disent les Français, Quentin Vinet?
Globalement, la réponse, c'est oui. 76% des personnes interrogées par l'Institut Odoxa disent avoir une bonne opinion des policiers. Globalement, ce qu'on remarque, c'est que les Français aiment la police, mais ils disent aussi, ils reconnaissent à 65% que les personnes de couleur ou d'origine étrangère peuvent être victimes de discrimination ou de racisme de la part des policiers.
Ça peut arriver.
Et alors, autre question.
Yvan Assioma, ça peut arriver dans la police. Vous l'avez vu, vous?
Mais très sincèrement, non.
Non?
Très sincèrement, non.
Bien.
La police, encore une fois, excusez-moi, mais la police n'est pas responsable. J'aime pas dire ça, mais parce que les autres en parlent. La police n'est pas responsable de la couleur de peau des délinquants. Voilà, la police ne fait pas la différence. Un délinquant, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, est interpellé par les policiers et contrôlé par les policiers.
L'autre question, c'est Christophe Castaner, est-il à la hauteur de la situation? La réponse, c'est non à 65%.
Il est à la hauteur de la situation? Oui ou non?
Et non, je ne vais pas vous dire oui. Le ministre nous a lâchés, mais encore une fois, le ministre nous a lâchés parce qu'on est persuadé qu'il a eu des consignes de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous maintenons notre action. Parce que oui, si le ministre a déjà donné des annonces depuis hier par l'intermédiaire de M. Nunez, mais nous, ce qu'on veut, d'abord, c'est que les consignes soient confirmées. Voilà, le retour soit confirmé par le président Macron, parce que bien sûr, on sait bien d'où viennent les consignes. Et surtout, on veut qu'il nous l'écrive.
Bien, Yvan Assioma, merci beaucoup. Merci. Il est 7h53. C'est l'heure des explications.
RMC, expliquez-nous.
Marine Le Pen, hier, a annoncé qu'elle se rendrait la semaine prochaine sur l'île de Sein pour célébrer l'appel du 18 juin du général de Gaulle, les 80 ans. C'est un revirement spectaculaire puisque son parti s'est construit sur l'anti-gaullisme. Pourquoi a-t-elle choisi l'île de Sein?
Alors, parce que cette petite île du Finistère, tout au bout du bout de la France à l'ouest, cette petite île fait partie de la légende gaulliste. En juin 40, une centaine de de marins de l'île ont décidé de rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Ils ont pris leur bateau de pêche, ils ont traversé, ils ont atteint Plymouth en Angleterre et ils ont ensuite formé l'embryon de la future marine nationale des forces françaises libres. C'était vraiment les tout premiers gaullistes.
Ils avaient entendu l'appel du 18 juin.
Oui, entendu ou pas en fait, parce que pratiquement personne l'a entendu le 18 juin, cet appel sur les ondes de la BBC. De Gaulle était arrivé à Londres la veille, le 18 juin, il lance donc son appel. L'histoire retient cette phrase célèbre, nous avons perdu une bataille mais nous n'avons pas perdu la guerre. Ben, en fait, il ne l'a pas du tout dit, le 18 juin, c'est une phrase qu'il prononcera bien plus tard. Ce jour-là, il avait simplement appelé tous les Français qui se trouvaient en Grande-Bretagne, civils ou militaires, avec ou sans leurs armes, à le rejoindre pour poursuivre le combat contre l'Allemagne.
Alors cet appel du 18 juin n'a pas été enregistré, il n'en reste aucune trace, mais il a été entendu en Bretagne par une femme, Madame Le Gall.
Une femme dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler,
jamais.
Madame Le Gall. Elle était à Saint-Brieuc et elle a effectivement entendu l'appel de ce général inconnu le 18 juin. Elle en parle aussitôt à son fils de 19 ans, Jacques, qui décide de rejoindre l'Angleterre avec son jeune frère de 17 ans. Ils ont donc 19 et 17 ans, c'était
des gamins.
Il trouve un bateau de pêcheurs pour l'île de Sein, puis finalement un autre pour Ouessant, et enfin, ils rejoignent l'Angleterre. Jacques rencontrera le général de Gaulle le 6 juillet, il va s'engager dans les forces françaises libres, et en 45, il finira commandant d'un sous-marin, le Doris. Alors aujourd'hui, Jacques Le Gall a 80 ans de plus, donc 99 ans. Il a appris hier que Marine Le Pen allait venir sur l'île de Sein, là où tout a commencé pour lui. Dans le télégramme de Brest, il se dit outré. Il trouve lamentable que le Rassemblement National fasse un coup de com' sur la mémoire de ceux qui ont choisi à l'époque le camp de la liberté.
C'est effectivement un coup de communication et surtout un revirement spectaculaire de la part de Marine Le Pen.
Oui, parce que son père, Jean-Marie Le Pen, a créé le Front National en 1972 sur la base de l'anti-gaullisme, ce qui rassemblait tous les fondateurs. C'était parfois des anciens collabos vichistes, c'était souvent des anciens de l'OS, c'est-à-dire ce mouvement terroriste, partisan de l'Algérie française, qui les rassemblait tous. C'était bien la haine du général
de Gaulle. Et qui a essayé de tuer De Gaulle, d'ailleurs.
Oui, et d'ailleurs, Bastien Thierry, qui lui avait fait l'attentat du petit Clamart, Jean-Marie Le Pen, par la suite, a essayé de le faire évader avant qu'il soit exécuté. Il a été condamné à mort.
Exactement.
Et alors, dans ses mémoires en 2018, Jean-Marie Le Pen écrit encore que De Gaulle reste une horrible source de souffrance pour la France. Là, il parle de l'Algérie. Et dans ses mêmes mémoires, il estime que Pétain a eu raison de signer l'armistice en juin 40. Jean-Marie Le Pen n'a donc jamais varié. Il a toujours choisi Pétain plutôt que De Gaulle.
Et Marine Le Pen, comment se situe-t-elle par rapport au gaullisme?
Eh bien, d'un seul coup, depuis cette semaine, elle est devenue plus gaulliste que les gaullistes. Dans une interview la semaine dernière, elle a parlé d'un grand homme et elle a estimé, il faut le croire pour l'entendre, que le Rassemblement National s'inscrit dans la continuité du gaullisme, ce qui est une négation donc de l'histoire de son parti, une sorte de bras d'honneur à son père et à tous ses amis. Mais c'est aussi un changement de pied par rapport à ce qu'elle a toujours dit, puisqu'en 2014, elle a rappelé que le Front National n'était pas un parti gaulliste et elle disait que jamais elle n'irait sur la tombe du général de Gaulle par respect pour les pieds noirs et pour les harkis que le général de Gaulle avait abandonné de façon criminelle. C'est pour ça que donc elle va pas se dédire, elle va pas aller à Colomber les deux églises, elle va pas aller sur la tombe du général de Gaulle, mais elle va aller la semaine prochaine donc à l'île de Sein, là où son appel du 18 juin avait été entendu. Jean-Marie Le Pen, qui a presque 92 ans, doit être foudrage, on imagine. Et Jacques Le Gall, 99 ans, et foudrage lui aussi, il le dit dans le télégramme de Brest.
Merci beaucoup, merci. Il est 7h57, Mathieu.
40, moins 40% d'offres d'intérim, recul historique au premier trimestre en France. Les intérimaires, première victime de la crise. Christophe Catoire, président France d'Adeco, est avec nous juste après le journal de 8h sur RMC.